Bonjour à tous, mon nom est Marc Vallière.
Moi, Karine Hamel.
Philippe Gamache.
Et Étienne Harvé.
Et ensemble, nous sommes les aventureux.
Aujourd'hui, ben ce mois-ci, à vrai dire, en général, on fête le 1 an du podcast Les Aventureux.
Bonne fête à nous!
Et pour, en quelque sorte, un peu célébrer l'événement, on a décidé de faire ensemble le RPG A Day 2016. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est... Il y a une question à chaque jour pour le mois d'août sur les jeux de rôle. Puis on a décidé d'y répondre pour que vous en appreniez un peu plus sur nous, sur nos préférences. Il y a des questions qu'on va passer plus vite que d'autres, parce qu'il y en a qu'on trouve un petit peu moins pertinentes ou qu'il n'y a pas vraiment sujet à élaborer dessus.
C'est ça. Il y a quand même 31 questions, ça en fait quand même beaucoup.
Oui, non, c'est ça. On peut pas nécessairement voler 8 heures de votre temps non plus.
C'est ça. L'année passée, on l'avait fait rapidement. On avait répondu à quoi? 5 ou 6 questions. Puis là, cette année, on va essayer de... On va essayer de les passer tous.
On clenche le marathon.
Ouais, yes. Ça va être un bon marathon. Puis j'avoue que trouver 31 questions qui sont pas les mêmes que l'année passée puis l'année précédente, ça doit pas toujours être facile.
Ouais, là, c'est une autre perte. D'habitude, c'est Autocratic qui s'en occupe. Là, cette année, c'était Runeslinger qui est un YouTuber de la RPG Brigade qui a fait les questions. Donc, au moins, ils ont changé de personne pour cette fois-là. Fait que ça a dû aider un petit peu. Donc, sans plus tarder, on va s'attaquer si on veut réussir à passer au travers. Fait que, première question, c'est vrai dé virtuel ou sans dé, lequel vous préférez?
Ben, moi, je pense pas que j'ai besoin de répondre à ça. Tout le monde le sait déjà que c'est pas de dé.
Ouais, moi je suis Karine, c'est pas de dé. On est des rares, très très rares à avoir donné cette réponse-là, je crois, parce que la plupart du monde, c'est les dés physiques.
Ben, c'est sûr que ça dépend dans la situation. T'es maître de jeu, des fois, c'est le fun de pas tirer de dés. Il y a des jeux sans dés, ben, ils sont faits pour aussi. Hein. Peut-être le même jeu serait plate avec des dés parce que ça changerait un peu la balance du jeu. La même affaire, c'est quoi la différence entre des dés virtuels puis des dés réels, des fois. Moi, j'aime avoir le dé physique, mais bon... ça m'est arrivé de devoir tirer un dé 13 ou un dé 50, ben, j'ai pas trop le choix d'aller sur un dé virtuel, tu sais.
Mais moi, c'est surtout le principe sans dé que, pour moi, ça symbolise un peu l'innovation puis la recherche de nouvelles mécaniques. Puis
la flexibilité, je dirais.
Mm-hmm. Ouais.
Puis les dés virtuels, ben, dans des parties en ligne, ça me dérange pas, mais à table, ça me tente pas que les joueurs... Et une raison de plus d'être sur leur cellulaire ou portable.
Ouais. Moi, je vais y prendre des dés virtuels si je joue avec un portable. La chenoute, Étienne, moi, j'y vais. C'est des virtuels. Ouais.
Mais c'est le fun.
Ah, ouais. Des virtuels.
Oui, ouais, parce qu'en plus, moi, tes torieux de dés qui sont pipés et qui tournent tout le temps sur le vin, là. Moi, je n'en ai pas avec ça. Moi, c'est vraiment random, là, l'affaire que j'ai.
Dis-toi ça. Le trois quarts du monde ne savent pas comment faire du random. Puis tu peux prévoir les tirs sur plusieurs étapes de dés virtuels. Il faut faire attention.
Prévoir, je suis pas sûr.
Il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de vrai random. Tu as du random très proche, mais il n'y a pas... Puis moi, j'ai vu des applications une fois que je savais que si je le partais à telle heure, j'allais avoir exactement tel dé qui allait sortir si je tirais tout le temps les mêmes dés. Fait que c'est pas... Faut faire vraiment attention dans les dés virtuels. Il y en a qui sont très bons, puis il y en a qui sont vraiment pas...
Moi, tant que j'ai l'illusion du hasard...
C'est ça.
ça me convient.
C'est ça, ben, ça me convient.
Les générateurs de dés sont souvent sous une illusion de hasard.
Mais c'est comme... C'est comme, il y avait une vidéo qui traînait pendant un bout de temps des méthodes pour vérifier si ton dé physique est équilibré. Je suis comme, mais mon Dieu, le monde sont bien obsédés pour vouloir faire ça. Mon dé, est-ce qu'il tourne? Est-ce qu'il tombe sur différents résultats? Oui, ok, j'ai pas besoin d'en savoir plus.
Puis c'est parce que l'état physique de flotter dans l'eau a pas la même chose que les rebonds que ça va faire sur une surface dure, par une surface dure, ça donnera pas le même résultat. T'auras pas c'est pas la même physique, Fait que ça, en réalité, c'était le trois quarts était vraiment niaiseux. Leur technique, ça montrait juste des défauts qui, en réalité, pouvaient augmenter l'effet random. Parce que l'effet d'avoir de l'air dedans, ça permet à ton dé de rebondir de façon un peu plus bizarre, qui va augmenter ton randomness. Fait que souvent, ce qu'il disait qui était moins random était plus random. Si tu tirais, tu tirais 1000 fois exactement la même façon ton dé, tu l'aurais vu. Le problème, c'est que être capable de tirer vraiment de façon très constante un dé, c'est pas facile, là. Il y a des techniques, mais ces personnes-là les utilisaient pas. Fait qu'ils pouvaient même pas prouver que qu'est-ce qu'ils disaient était vrai.
Mm-hmm. Ben, je sais pas si ça marche ou pas, mais ça m'a donné le goût de faire une game dans une piscine, là.
Une piscine.
Ça, okay. On va attendre, ça va peut-être être une question plus tard.
Oh shit, oui, c'est vrai.
Après que deuxième question. Yes. Votre meilleure session de jeu depuis août 2015. Fait que rapidement, pas obligé de la compter au complet, évidemment.
Ah, moi, ça a été les games. Ben, on en a eu des très bonnes avec Karine, entre autres, avec les autres. Mais je pense que les Fall of Magic ont eu un petit quelque chose que j'ai vraiment bien aimé. À cause du principe du jeu, peut-être aussi, là. Mais ça, tu sais, tout le monde pense, ça s'emmènera pas. Mais chacune des games ont été extraordinairement de façon très différente. Pourtant, on est guidé dans un sens que j'ai trouvé super ce jeu, fait que ça a vraiment fait des bonnes sessions.
D'ailleurs, pour les intéressés, Fall of Magic est maintenant disponible sur Roll20, si vous voulez jouer en ligne. Fait que...
Ouais, yes. Ce qui me dit que peut-être, à un moment donné, on devrait faire un podcast dessus. Hein.
Ouais. Ouais, mais en tout cas, ça faudrait une vidéo en plus, parce qu'il faut quand même voir la carte.
Ouais,
pas nécessairement.
Fait que, sinon, prochaine personne?
Ben moi de mon côté, ma meilleure session que j'ai eue depuis août 2015, à mon avis, c'est la game de Call of Cthulhu que j'ai eue il y a pas longtemps. C'est un petit jeu qui sent vraiment beaucoup de prétention, mais j'ai eu ben plus de fun que je m'y attendais à jouer un chat, puis à être un sale avec le butler qui nous aimait pas. C'est un jeu que je recommande à n'importe qui soit aime les chats ou aime le
role-playing game.
Ouais, vraiment là. Puis pour revenir rapidement sur les dés virtuels, le Roll20 là, j'ai eu aucun problème au niveau du randomness de mon dé. Ça tombe jamais sur les mêmes affaires d'une session à l'autre.
Non, ben ils ont oui, parce que c'est du random sur tout le monde, fait que ça paraît beaucoup moins.
Yes.
Sinon, Karine?
Je dirais une game de Warhammer 40K. J'ai commencé à jouer à ce jeu-là par hasard l'été passé. C'est-à-dire, je me suis fait traîner par un ami une soirée que je savais pas qu'il y avait une game. Puis il a dit, ouais, en passant, on fait une game, ça te tente-tu de faire un perso? Puis j'ai fait, bon, OK. Puis finalement, ça s'est avéré à être vraiment, vraiment le fun. Pourquoi cette game session-là en particulier? Je vais pas vous raconter exactement ce qui se passe, là, mais essentiellement, je joue une adepte très, très high maintenance. Puis mon nom, c'est Princesse, en fait. Puis ça a été roulé aléatoirement dans une table. C'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, je m'appelle littéralement Princesse. Puis tout le monde, j'énerve tout le monde. Mais je suis très efficace, fait qu'ils me gardent dans le groupe. Fait que c'est parfait. Fait que ça a été vraiment très, très le fun de voir tout ce beau monde-là énervé après moi dans cette game-là.
Donc, il manque juste moi. Oui. Moi, c'est ma partie que j'ai faite avec mon groupe habituel, une partie de The Warren, qu'on joue des lapins.
Oui!
Ça a été tellement une belle découverte. C'était un mélange d'humour, mais en même temps d'horreur et de suspense, parce que, bon, comme j'ai déjà dit, quand t'es des lapins, tout est dangereux, puis tout veut te tuer. Ouais. Puis c'était une belle découverte. Je m'entendais pas à ce qu'un jeu dont le concept est un peu étrange, quand tu dis comme ça, ait autant un bel impact au niveau du jeu.
Ouais.
Donc, c'est noté, 50% de nos meilleurs games sont quand on incarne des animaux. C'est bon.
Troisième question, quelque chose que vous avez fait avec votre personnage dont vous êtes le plus fier? un de vos personnages, évidemment.
Moi, c'était dans une game d'Exalted, parce que ben, vous ne me connaissez pas en tant que personne, mais des fois, j'ai des petites tendances à être un peu contrôlante. Puis, j'aime pas ça quand mes personnages, ils se contrôlent plus. Fait que c'est difficile pour moi à jouer. Puis, dans Exalted, il y a ce qu'on appelle un limit break, où littéralement, ton personnage pète une coche puis il se met à agir de façon complètement incontrôlée. Puis, on était dans un camp, on se préparait à aller faire la guerre, puis on est un camp comme de militaires, puis je suis une des générales de cette armée-là. Puis, il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai spendé un point, puis j'ai pété mon limit break. Mon limit break était de devenir vraiment débauché. Fait que, imaginez l'espèce de troupe un peu, je dirais, style romain, là, l'armée style romaine. Puis là-dedans, il y a une demi-déesse qui se met à dire « Moi, je fais le party ». Ça a très bien marché. En fait, j'ai fait le party avec l'essentiel de toute l'armée. Ça a duré 5 jours. Puis ça a fini que j'ai couché avec ma pire ennemie pendant une couple de jours. Ça a l'air niaiseux, dis-moi, mais c'est resté un événement qui a eu des répercussions dans le reste de la game, comme pour tout le long. Et j'étais très fière de moi d'avoir été capable de le jouer complètement puis de perdre le contrôle de mon personnage comme ça. Ça, j'étais vraiment fière.
Ouais. Next. Moi, j'en ai un.
Je suis comme, silence.
Ouais, c'est ça, j'en ai un étrange un peu. Parce que oui, j'ai fait des moments assez mémorables, mais je pense qu'un qui a été le plus fucked up, ça a été, on jouait une game live de Hunter pendant 3 ans. Puis, c'est une agence où est-ce que chaque joueur, on est dans l'agence puis on court après différents monstres. Là, c'est vraiment Hunter, là, dans World of Darkness, mais modifié. Là, fait que on connaissait pas vraiment qu'est-ce que c'était. Ben, on connaissait Vampire, mais tu sais, selon les légendes, parce que tous les maîtres de jeu avaient tout changé la donne pour pas que tout le monde qui jouait à ben des games de World of Darkness, on sache exactement quoi. Puis, dans cette game-là, mon personnage était pseudo-traître à l'agence. Il était pas vraiment traître, mais il travaillait pour un autre groupe, qui était pas un groupe de monstres, mais il travaillait, ben, c'était un genre de Illuminati, là, pour compter rapidement. L'avant-dernière game, il y a quelqu'un qui a réussi à me découvrir, un peu en méta-gaming, mais ça, c'est pas important. Puis, fait que là, ils se sont mis à essayer de m'interroger. Puis j'ai vraiment fait, tu sais, la chose que aucun joueur aurait cru que tu fasses dans une game, particulièrement, surtout que c'est l'avant-dernière game. Puis bon, on sait que les joueurs me l'auraient laissé vivre, parce qu'ils m'auraient laissé une chance, parce que bon, il reste pas. Mon personnage était assez freak, puis bon, il est fait parce que son autre groupe, il était dans merde si en s'étant fait pogner. Fait que mon personnage a carrément mordu sa dent suicide en plein milieu de la game, pendant que tout le monde a fait comme quoi. Tu sais, c'est comme, tu sais, le monde d'habitude se tue in game en faisant des actions hautes. Moi, j'ai juste fait, vous allez pas m'interroger. Puis c'est comme, clac, arrêté là. Puis c'est comme, tout le reste de la game, là, surtout tous ceux qui étaient à l'interrogation, non, comme, étaient là. Puis à la dernière game, ça a tellement affecté les joueurs qu'il y a des joueurs qui ont eu de la misère à faire la mission finale parce qu'ils comprenaient plus qu'est-ce qui s'est passé. Comment un joueur pouvait faire quelque chose comme ça? Ça a vraiment été wow! Puis ça a été vraiment un moment que bon ben tout le monde, ça fait quoi plusieurs, quasiment 10 ans qu'on a fait la game, puis le monde m'en reparle beaucoup. Là. C'est que puis ce personnage-là avait fait beaucoup de moments que tout le monde me reparle, mais ça, c'en est un que le monde sont comme pratiquement choqué. Là. Ben, c'est un personnage, mais je l'ai pas fait en version héroïque. T'sais. C'est comme, non. Fait que c'était très intéressant, c'est ça. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la réaction des joueurs qui était comme un disbelief complet. Là. Fait que, ouais, c'est pas mal ça.
Marc, qu'est-ce que tu obtiens?
Oui. Quelques mois dans ma partie de Dungeon World, on était dans un village où est-ce que il était sur le point de se faire attaquer par une bande de malfrats et qui avait quelque chose comme 100 ou 200 hommes. cette bande-là. Puis on a réussi à mobiliser le village en entier, hommes, femmes et enfants, afin de nous aider à défendre le village. On a établi une stratégie qui a duré 2 sessions au complet. Mais finalement, on a passé une session en entier à défendre le village, puis on a tout tué, tous les méchants. Il y a eu quelques villageois qui sont morts, mais pas nous autres, aucun des personnages joueurs. Puis ça, ben, c'est probablement le moment pour lequel je suis le plus fier, parce qu'on a réussi notre mission de diplomate, puis on a sauvé le village de façon ben héroïque.
Super.
Et toi, Étienne?
Moi, c'est quelque chose de très personnel, plus que comme de quoi je suis fier. Puis, je suis pas souvent joueur, mais récemment, j'ai commencé à jouer à Vampire Requiem. Puis, j'ai un personnage qui est un espèce de politicien qui a travaillé dans la bourse aussi, mais que, selon lui, on peut faire des affaires honnêtes, puis tu peux être un politicien honnête, puis il essaie de pas mentir aux gens, puis il convainc avec son charisme, etc. Puis quand il est devenu un vampire, il est devenu un Ventru. Fait que là, au début, je jouais encore comme la personne qui pensait que même dans le monde des vampires, tu pouvais être honnête, puis convaincre les gens par ton charisme. Puis justement, ben, en même temps que mon personnage apprenait à être un Ventru, ben Étienne aussi apprenait en quelque sorte à être un Ventru, parce que je connaissais pas vraiment l'univers. Puis en même temps que mon personnage en apprenait plus sur l'univers, ben moi aussi. Fait que c'est comme... C'est vraiment une espèce de relation symbiotique entre moi puis mon personnage qui a fait que le jeu puis l'évolution du personnage est juste parfaite. Quelque chose que je pourrais plus jamais reproduire presque avec un personnage dans ce jeu-là, parce que maintenant je connais plus le monde déjà. T'sais. C'était impossible pour moi de faire du metagaming, que ce soit volontaire ou involontaire, parce que j'avais presque pas lu le livre non plus, etc. Fait que c'est une belle évolution du personnage. Maintenant, il est rendu pas mal un Ventru assumé et complet, mais ça a été une belle escalade.
Ouais, c'est drôle. Ça me fait penser à un de mes amis, puis je pense que ça va être le 4e point que je vais parler. Most impressive thing another character did, là. Vraiment, une action. J'ai tellement vu d'affaires que des fois, j'ai beaucoup de misère à voir qu'est-ce qui pourrait être impressionnant. Mais j'ai justement, on jouait nous autres avec une... On faisait une game de vampire comme ça, puis on a fait un gros party d'Halloween en invitant tous nos amis. Mais en disant on va garder la mascarade, on fait notre game, on joue in game, puis mais il faut garder la mascarade, faut pas que les autres joueurs découvrent qu'on joue en même temps, ok? Fait que ça c'était la prémisse de comment faire. Puis on a un de nos amis qui est journaliste, puis à un moment donné lui s'est rendu compte qu'on jouait, il nous l'a pas dit, fait qu'il s'est mis à jouer avec nous sans savoir à quoi qu'on jouait, en faisant son nosy journaliste. Puis, quand là, on a vu qu'il est rentré dans le jeu, on continue à jouer avec. Puis, durant la soirée, il y a un joueur qui a décidé de carrément embracer ce joueur-là, justement, comme Ventru. Et le gars a rentré dans la game. La game. Parce qu'il a vu qu'on était en train de jouer et il a jamais lu les règlements au départ pour justement exactement faire comme toi. Apprendre le jeu, apprendre l'univers en l'apprenant in-game. Puis il a vraiment fait ça, puis c'est drôle parce que lui, ça a été... Même il a découvert le jeu comme ça en étant... en découvrant qu'il y a du monde qui jouait. Il connaissait même pas. C'était un joueur de jeu de rôle, fait que c'était plus facile. Mais il connaissait pas les games live. C'est vraiment au début des games live, quand la première version de Manzai est sortie, qui bypassait la version que le monde avait faite avec jouer au flag, là. Le livre, il venait de sortir, il faisait peut-être quoi, un mois et demi, quand on avait commencé à jouer, puis que l'Halloween arrivait, là. C'était vraiment le premier Halloween après que le livre soit sorti, là. Fait que c'était vraiment débile. Puis c'était très... Ça avait été vraiment, vraiment cool. Comme, de toute façon, c'était pas le personnage, mais le joueur qui a été assez impressionnant d'être capable de rentrer, puis de voir. Puis Puis tu sais, on faisait vraiment attention, puis on faisait pas de roche-papier-ciseaux pour... parce que ça aurait paru bizarre, là. T'sais, on faisait tout en roleplay, puis c'était vraiment cool. Mm-hmm. Fait que quand tu m'as parlé de ça, moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est vraiment cool.
Fait qu'excellente transition pour la quatrième question.
Ouais, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire dessus?
La chose la plus impressionnante accomplie par un personnage d'un autre joueur.
Eh oui!
Donc, moi, c'est ce que Philippe vient juste de dire. Est-ce que...
Ben, moi, je dirais aussi, dans un live de vampire, j'ai un joueur qui faisait un toré, puis à un moment donné, il y avait une soirée spéciale, puis il a décidé qu'il... Parce qu'on a... on fait des torées un peu spéciales, puis on a de la vicissitude, donc on peut changer. Puis il est devenu une femme pour une soirée. Mais habituellement, les gens qui se, je dirais, travestissent dans les games le font très... de façon humoristique ou très grossière ou très... Mais lui a vraiment fait une femme sérieuse et crédible. Puis c'était vraiment impressionnant de le voir jouer avec le maniérisme, sa voix, le déguisement. Puis il était belle, en fait. Il était vraiment bien, bien fait. Puis c'est un gars habituellement qui a vraiment beaucoup de barbe, fait qu'il s'est rasé, puis le niveau de commitment qu'il a mis dans son costume, puis dans ça, j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant.
Wow, wow.
Ouais, il s'est rasé le chest, puis il s'est rasé la face, puis il s'est mis du make-up. Non, non, le gars était comité, là.
Il est allé à fond dans son rôle.
Oui. Oui, oh, oui,
c'est tellement génial. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu dans un GN, c'est trop hot. Faut que je le raconte aussi, c'était trop impressionnant.
Rapidement, parce qu'on commence à aller d'anecdote en anecdote, on finit.
Ouais, ça va être long.
Mais celle-là, c'était débile. Dans Solune, à un moment donné, il y a un joueur qui joue un vieux magicien qui a décidé qu'il voulait augmenter sa magie. Puis bon, il y avait des légendes d'une source de la magie. Puis il est allé à la place, puis ça... Je raconterai pas tout ce qu'il a dû faire, mais il a réussi à aller dans la source. Et quand il est revenu au village, parce que on l'avait envoyé hors du terrain, dans le lac Manfred Magog, sur une petite île, ouais, il y avait un paquet d'affaires. Il est revenu, mais on avait fabriqué un gros dragon de 35 pieds. On l'avait mis dedans, puis son personnage était le dragon. Il a été transformé en chose de magie. Puis la game suivante, t'avais une joueuse qui était un dragon qui avait été cursé en humaine, puis qui était plus capable de sortir, puis elle devait partir de la game, elle pouvait plus venir. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux-là? C'est qu'ils ont trouvé un moyen de switcher de corps. T'sais, ils ont switché de corps. Fait que la dragonne est redevenue, ben, est devenue un dragon, puis lui est devenu la fille. Fait que, comme elle s'en allait, elle lui a donné son costume. Puis physiquement, il était à peu près à la même grandeur, tu sais. Puis des choses comme ça, elle lui a donné... Elle portait une grande perruque bleue, flash. Puis tu sais, la game suivante, il est revenu comme la fille. Mais on n'a pas su que c'était le gars avant un méchant bout. On pensait que c'était elle qui finalement était venue. On savait qu'elle venait pas, puis là, on était... Pourquoi elle est venue? On pensait qu'elle venait pas. Bon, on était contents. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'est ce gars-là qui jouait la fille. Il avait vraiment switché, puis il avait pris le corps de... Comme il était rendu dans le corps de la fille, ben, il a joué son personnage, mais physiquement, comme l'autre. C'était hallucinant. Puis, il a joué longtemps après ça, là. Puis, il était comme, wow! On était vraiment impressionnés. Surtout de voir... Qu'au départ, son personnage était un petit vieux, puis là, c'est rendu une jeune fille. C'était vraiment débile.
On va passer à Marc.
Ben, rapidement, moi, c'est encore là dans ma game de Dungeon World. Il y avait un... habituellement, il y a quatre joueurs dans une game, là, de jeu de rôle classique, si on peut dire ça comme ça. Puis notre quatrième joueur a changé à quelques reprises, puis il y en a un qui venait d'arriver. C'était à une époque où est-ce que on honnait pas mal le scénario du DM au point où est-ce qu'on le tentait en disant comme « Ah ouais, ça là, tes hosties de grosses monstres, là, on est tanné d'avoir des petites chauves-souris, là. » Fait que un moment donné, pendant qu'on arpentait la forêt, il nous a préparé un beau groupe de sept mercenaires contre nous qui n'étions que quatre. Et notre nouveau joueur qui était un voleur, moi, je me disais, c'est sûr qu'il va vouloir de la baston, là. Mais non, tu sais, il s'est servi d'un poison pour mettre le chef des mercenaires ami avec nous autres. Puis ça nous a empêché d'avoir un combat de plus de ce qu'est-ce qu'on avait. Fait que ça nous a permis de continuer à narguer notre DM qui avait encore échoué son but de nous faire mal ou de nous tuer. Puis j'avais été impressionné par ça parce que la plupart du monde vont juste vouloir comme tuer avec leurs dagues puis leurs épées puis c'est tout là, mais non, il m'avait impressionné notre Bob le moche, le voleur timide.
J'aime son nom.
Fait que bon, c'est ben, ça. Je vais passer tout de suite à la cinquième. J'ai pas d'histoire rapidement comme ça en tête, c'est pas grave, je vais... Philippe a répondu deux fois, fait que je vais prendre sa réponse.
excusez.
J'en ai c'est pas grave.
Plein, là.
Cinq à où?
La prochaine, c'est une chose...
Une histoire que votre groupe raconte à propos de votre joueur.
Avec un de vos personnages.
Ouais, c'est ça. Ça fait plus de sens comme ça.
Moi, c'est compliqué. C'est dans une partie de Mutant and Mastermind. J'ai été comme engagé pour surveiller... slash espionner le groupe. Fait que première fois que je les ai rencontrés, je me suis infiltré dans leur espèce de vaisseau spatial, puis j'étais invisible, puis j'écoutais leur conversation, mais mon personnage a un gros défaut, qui est un très très gros fumeur compulsif. Fait qu'à chaque fois que je suis invisible, je me mets à fumer à cigarette. Fait que ma fumée de cigarette ainsi que l'odeur n'est pas invisible. Fait que c'est comme ça qu'ils m'ont découvert la première fois. Fait que, à cause qu'il y avait une odeur de cigarette qui commençait à apparaître partout dans le vaisseau. Puis depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on joue à un jeu puis qu'il y a quelque chose d'invisible, il y a tout le temps quelqu'un qui sort. Ah, puis là, ça commence à sentir la cigarette. Puis bref, c'est devenu une espèce de running gag. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça.
Ben, je vais y aller avant Philippe et Karine, si ça les dérange pas.
Ah, c'est
moi, ça date de ma première game de Donjon 3.5, dans laquelle je jouais un paladin mort-vivant, un paladin de Illmatter. Et il y avait un de nos joueurs, il jouait un demi-orc. Et on était dans une ville, et un demi-orc dans une ville, ben souvent il va aller dans un bar. Et qu'est-ce que ça fait dans un bar, un demi-orc? Ça va boire beaucoup et probablement se battre. Et c'était au point où est-ce que il était en train de péter la gueule à tellement de monde que les gardes de la ville sont intervenus et il a réussi à se sauver. Et je sais pas pourquoi ce joueur-là a eu ça comme stratégie, mais il a dit « Hey, c'est vrai, le membre de mon groupe qui est un paladin est en train de méditer à son temple. Je vais aller me sauver là. » Puis comment ça s'est passé, c'est que pendant que j'étais en train de méditer à mon Dieu, lui, il rentre en trombe, ferme la porte, puis il me dit « Cache-moi quelque part, tu sais. » Mais ce qu'il comprenait pas, c'est comment est-ce que ça pense un paladin loyal bon. Fait que au lieu de l'aider puis de le cacher en quelque part, surtout après avoir entendu les gardes qui étaient arrivés puis qui cognaient à la porte, je l'ai pogné, je l'ai maîtrisé grâce à un bon jet de dés, puis je l'ai envoyé en prison. Fait que ça a quand même fini par trois sessions de roleplay où est-ce qu'il y avait on passait en cours pour justement justifier les actes du demi-orc. C'était le mage du groupe qui avait servi d'avocat, puis c'était très bien débrouillé. Au point où est-ce qu'il avait fini avec quelques heures de travaux communautaires, that's it. Puis qu'on a pu repartir sur l'aventure, puis mais ouais, c'est une affaire qu'il parle encore de mon personnage.
Je peux le comprendre.
C'était chien, mais j'étais comme no fucking way que je jouerais pas mon rôle de paladin comme faut là-dedans. Là.
Non, c'est normal.
C'est ça.
Avec vous, Karine et Philippe.
Pour faire court, moi je dirais l'histoire que j'ai racontée de mon moment que je suis le plus fier, que j'ai pété mon limit break, ça est resté dans l'histoire. Puis à chaque fois qu'il y a un ennemi maintenant, il y a comme des... Quand on faisait la game, parce que la game est arrêtée maintenant, là, mais dans la game, le homme est couché avec la comtesse, puis tu vas te coucher avec cet ennemi-là aussi. C'est revenu à quelques fois où, quand on avait une grosse bataille puis qu'il y avait l'armée, l'autre joueur qui venait me voir puis qui me watchait puis qui me surveillait pour pas que je refoute le bordel dans ses troupes en faisant le party un peu trop fort, c'est resté très très longtemps.
Ouais. Non, ben c'est souvent, c'est... si on est fier d'un coup, c'est aussi parce que c'est des
ça
choses...
Ça a eu de l'impact dans la game, ouais.
Dans la game, puis que le monde en reparle. Puis bon, c'est sûr que il y a des games que on a tout le temps des personnages qui ont plus d'impact que d'autres. Justement, la même game, ce personnage-là, j'avais une compétition avec un autre joueur qui était très, on était très dandy, fait que on avait une compétition gentilhomme. Je suis meilleur que toi, j'ai des meilleurs contacts que toi. Puis, tu sais, on s'assoyait vraiment un peu à Gentleman Club de l'époque, mais tout ça, mais maintenant, mais on agissait un peu comme les British gentlemen. Puis, à un moment donné, on a eu une compétition, il y a un de des autres personnages qui venait d'avoir un nouvel enfant. Puis ce personnage-là était chassé par l'Inquisition pour plusieurs raisons, fait qu'on fait OK, ben on va essayer d'avoir le meilleur cadeau pour le kid. Fait que lui il fait tout ce que tu fais, il fait oh, moi je paye toutes ses études, tu sais. J'ai de l'argent, je suis capable. Fait que j'ai fait oh, ouais, attends la prochaine game toi. Tu t'en reviendras pas. Puis ce geste-là, je pense à chaque fois que je revois la gang de joueurs, puis tu sais, on était quoi, 35, 40 à jouer, à pratiquement chaque fois, le monde m'en parle. La game suivante, il y a j'arrive avec un édit du pape, comme quoi l'Inquisition ne peut pas toucher à la famille du gars à cause d'un nouvel enfant. Mais tu sais, papier signé par le pape. C'est ce que je ramène. Et là, tout le monde était comme comment il a fait ça? Puis l'autre, il m'en a voulu pendant quoi? 10 games, là, parce qu'il il avait aucune idée comment j'avais pu faire. Puis là, tout le monde en parle, puis tout le monde en parle à chaque fois que je vois. Particulièrement le joueur qui avait été touché par ça. Il a fait comme comment t'as eu cette idée-là? Puis comment t'as réussi ça? Puis moi, j'ai jamais dit à personne comment je l'avais fait. Fait que je me fais encore poser la question plusieurs fois par année, comment j'avais réussi mon coup. Puis ça avait été vraiment très, très, très drôle, là, parce que c'était wow, tout le monde, tu sais, comme... Puis c'est ça, comme je dis, comme une quarantaine de joueurs. Puis dernièrement, au Comic-Con, genre, j'ai vu un des joueurs, puis il m'a reposé la question, il m'a... Fait que ça a été vraiment un truc que je pense... Une de mes actions qui est restée le plus, là, que tout le monde m'en parle tout le temps.
Question 6 maintenant. La chose la plus impressionnante qu'un groupe ait fait pour la communauté.
Mais quelle communauté?
La communauté, je pense. Real life ou dans une game?
La communauté, je pense, c'est plus real life, là. Okay. Qu'un groupe de jeu en général est fait pour la communauté dans le sens comme société au sens large. Là.
Ouf!
Moi, c'est compliqué, là. La seule chose que je connais vraiment ou que je pense, c'est BrigadeCon, convention en ligne, que toutes les sous ramassés vont à Opération Enfant Soleil ou l'équivalent américain. Fait que
okay.
C'est une bonne chose. À part ouais. Ça.
C'est une affaire que je crois bien que je vais participer cette année, cet automne.
Mm-hmm. Moi, je compte participer, c'est sûr et certain.
Ouais. C'est pas évident, hein?
Ben, c'est... Ouais, Marc, vas-y.
Ben, moi, c'est pas vraiment comme ramasser des dons ou quoi que ce soit, mais je considère que ça a quand même été bénéfique. C'était à l'époque où est-ce que Donjon 4 venait juste de sortir, je jouais à 3.5 à l'époque. Le magasin dans lequel on jouait, à l'époque où il existait encore, avait organisé une journée de... ouais, comment ça s'appelle ça déjà? Ciboire. J'ai oublié le nom, là.
Introduction, initiation.
C'est pas RPG AD, c'est un autre mot.
Le free RPG, là?
Non, le Game Day.
Ah, ouais.
dans lequel moi j'ai bien aimé ça parce que ça a attiré plein de monde, autant des adultes dans la trentaine que des jeunes adolescents. Puis je pense qu'on a introduit le jeu de rôle. C'est sûr que c'était consacré uniquement à Donjon, là, mais on a introduit le jeu de rôle à bien du monde. Puis j'ai gardé plusieurs amitiés de ça. Il y en a par après, ils ont passé au GN. Il y en a qui se sont mis à devenir MJ eux autres mêmes par après. C'est sûr que bon, on n'a pas ramassé de dons pour une charité quelconque, mais je trouve que ça a quand même eu un impact positif.
Ben oui, je pense que oui, Marc.
Ouais.
Moi, c'est un peu la même chose que Étienne a nommé, mais c'était à beaucoup plus petite échelle. C'est-à-dire, j'ai fait une levée de fonds pour la Société de recherche sur le cancer dernièrement. Puis, je l'ai faite en faisant des games, essentiellement. Puis en organisant des trucs de jeu.
Moi, il y a eu un groupe de GN qui ont été vraiment débiles pour tout ça. Ils ont fait plusieurs choses. On est allé pendant surtout l'hiver, on est allé dans plusieurs maisons de jeunes pour faire de l'animation, faire des games, des choses comme ça. Des maisons de jeunes qui avaient de la misère à recruter des jeunes qui allaient fermer, des choses comme ça. Puis on a, je sais pas comment ça a bien réussi. Il y en a plusieurs qui ont comme triplé, quadruplé le nombre de gens qui allaient, puis une fois qu'ils ont découvert la maison de jeunes, ils sont restés. Puis un Halloween, au lieu de faire notre party d'Halloween habituel, on a décidé que on faisait on allait à une soupe communautaire, puis qu'on allait aider les gens dans la rue, mais tout en personnage. Fait que ça a été très amusant aussi.
Toutes des belles initiatives.
Ouais, c'était intéressant ça. C'est un groupe qui était très actif là-dedans.
Le prochain, on peut y répondre assez rapidement, même si c'est une question qui pourrait avoir un podcast au complet dessus. Aspect du jeu de rôle le plus bénéfique pour vous?
Ben, je vais commencer, si ça vous dérange pas. Moi, c'est carrément l'aspect social. Vous savez tous que je vis à Val-des-Bois, il y a pas nécessairement grand monde ici, fait que moi me retrouver puis jouer avec du monde certains soirs, ça m'aide beaucoup à éliminer la grisaille du quotidien pour partager avec d'autres gens. Fait que moi, ça va être plus ça, je pense. Ouais.
Ben moi, c'est le même aspect, mais un peu différent dans le sens, c'est l'interaction entre les joueurs, de voir comment les idées que les joueurs vont avoir face à une même situation. Les idées que les autres joueurs vont avoir, que je fais comme « Ah, oh, mais c'est bien cool », puis voir comment ils pensent, puis voir comment différents personnages réagissent à différentes choses, ça m'aide à concevoir différentes choses de ma propre vie, puis comment je joue aussi, puis je trouve que ça m'aide à grandir en tant que personne, puis en tant que joueuse de cette interaction-là.
Moi, c'est la même chose que toi, Karine, dans le fond. J'en ai parlé ailleurs aussi, mais pas mal tout mon chemin de vie à date a été forgé par les jeux de rôle, parce que je joue depuis que j'ai 5 ans, fait que pas mal, presque tous mes choix, étrangement, ont été influencés par ça. Puis justement, ben pour moi, ça a forgé un peu qui je suis, puis ça continue à forger qui je suis par les interactions, puis ça te permet de t'adapter à n'importe quelle situation. Tu développes tellement des capacités d'adaptation, surtout en tant que maître de jeu, qu'il faut que tu improvises à tous les 2 secondes. Tu développes aussi des capacités à résoudre des problèmes, à toujours trouver des nouvelles idées, à mieux comprendre les gens, les émotions autour de toi, etc. Fait que plein de beaux outils que les jeux de rôle fournissent. Philippe?
Ouais, moi je pense que c'est l'effet d'avoir des outils, justement. J'étais le gars le plus gêné que vous auriez pu voir. J'étais vraiment hyper gêné. Je parlais pas beaucoup aux gens. Ça m'a vraiment aidé à m'extérioriser énormément. Puis de parler, puis d'être capable de foncer, puis dans un point, des fois même carrément de je me fous de ce que le monde peut penser. Je fais ce que j'ai à faire. Ça a été vraiment ça m'a fait ça, puis ça m'a aussi donné plein d'autres outils dans des situations un peu plus comment dirais-je, rough, permettre t'extérioriser, mais aussi d'être capable de faire des choses comme de regarder ses, comme plusieurs de ses côtés. Je suis un gars qui est autant, je suis très émotionnel, mais aussi je suis très, je suis aussi très très théorique, très très mathématique, très, tu sais, comme j'ai les deux côtés en même temps qui se fêtent beaucoup en moi, fait que je suis capable de passer maintenant de un à l'autre, puis de voir qu'est-ce qui fête en moi pour être capable de faire, bon, regarde, ok, on va. Oh, je suis capable d'avancer, ça me bloque plus, ça me, parce que ça, j'ai comme, étrangement, je suis capable de prendre mes deux côtés comme si c'était des personnages, puis de faire discuter ce que avant j'aurais été pas capable, parce que je suis capable de justement d'entrer dans la peau de plein de personnages en étant comme joueur, en faisant ben des games différentes dans les mêmes temps, ou en tant que maître de jeu. Ça c'est aussi débile, là, tu sais. Ça donne bien des outils, ce que je trouve très intéressant.
Sinon, si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, vous pouvez écouter aussi nos podcasts sur la psychologie et le jeu de rôle, puis celui sur les préjugés. On en a parlé aussi un petit peu plus là-dedans.
Ouais. Bonne idée, Étienne.
huitième question, livre à couverture rigide, souple ou livre digital? Moi, c'est pas compliqué, ma réponse, c'est en tant que collectionneur, couverture rigide, en tant que joueur et quelqu'un qui aime lire et apprendre les règles, couverture souple, et en tant que maître de jeu, livre digital. Et voilà.
Là, en fait, moi, je pense que les trois ont leur temps où est-ce que tu veux les utiliser. Comme moi aussi, je suis collectionneur. Le hardcover, j'adore. Mais le softcover, à un moment donné, c'est aussi pour le budget, là. Quand tu vas acheter 200 jeux dans une année, si tu achètes tout en hardcover, tu vas te ruiner.
Oui, aussi.
Puis avoir le digital. Puis, surtout les jeux que j'aime le mieux, qui ont une belle qualité, je vais aller vers le hardcover ou pour encourager, whatever, là, certaines choses. Puis, j'aime bien avoir le digital pour trouver les informations, surtout quand elles sont bien faites, puis tout est interrelié, là, comme certains livres que j'ai vus dernièrement. De plus en plus, le digital est vraiment bien fait. Mm-hmm. C'est pas juste des scans, là, comme au départ, là, c'est des scans de livres, là. Là, maintenant, t'as des hyperliens, t'as un paquet d'affaires qui fait que le digital devient un outil. Fait que les games que je joue le plus souvent, ben, je vais avoir le livre, puis je vais avoir le digital, parce que pour l'utilisation, là, ça me prend les deux, des fois.
Ben, moi, s'il faut que j'en choisisse un, ça va être hardcover, parce que j'aime flatter mes livres.
C'est une meilleure réponse ever.
C'est une excellente raison.
Mais je te comprends, Karine. Si j'en choisir un, c'est hardcover pour la même raison aussi.
Ben non, c'est ça, moi aussi.
Tout ce que vous avez dit, c'est vrai, là, mais à la fin de la semaine, il faut que j'en choisisse ça. Ça va être hardcover pour les flatter.
Mais c'est tellement pénible à lire, par exemple, un hardcover.
C'est pas grave, tu les flattes.
Genre, t'as l'impression que tu vas le briser. Tu veux pas l'ouvrir.
Mais tu trouves ça... Ouais, mais tu le flattes puis tu lui donnes de l'amour pendant que tu le lis.
tu lui parles la nuit.
Sauf que, tu sais, pensez que normalement, un hardcover va moins se briser qu'un softcover. Fait que... Mm-hmm. C'est juste, c'est vrai qu'on a plus peur des brisés.
Ils sont plus beaux. Marc?
Oui, ben moi, de mon côté, je vais faire un parallèle qui est peut-être pas évident au départ, mais que je trouve ça explique très bien ma réponse. Pour moi, c'est un peu comme les collectionneurs de jeux rétro. C'est sûr que tu peux downloader un paquet d'émulateurs avec plein de jeux, puis en avoir plein, mais c'est toujours le fun d'avoir la cassette entre tes mains avec la vraie console. Pour moi, c'est la même chose pour ça. C'est si tu me demandes lequel que je préfère, m'en revenir peut-être sur les dés aussi. C'est sûr, d'avoir les dés ou d'avoir le livre hardcover entre les mains, c'est l'idéal. Mais pour avoir... moi, le jeu pour lequel j'ai DMé le plus, c'était Donjon 4e édition. Fait que j'ai déjà transporté des bibliothèques au complet, là. Fait que c'est pour ça que, comme les dés, là, j'aime ça avoir le moins d'affaires à transporter, puis je vais quand même prendre le livre en format digital.
Mm-hmm. C'est un très bon... En tant que collectionneur aussi de jeux rétro, j'approuve le parallèle.
Oui. Toi aussi, tu flattes tes consoles, hein, Marc?
Oh, tu savais à quel point j'ai flatté ma NES, puis ma Super NES.
T'as aussi soufflé dedans, sûrement.
Ah, plusieurs fois.
Mais je faut pas.
Ah ben, je m'excuse, ok, mais le monde qui dit ce qu'il faut pas, ok, le nombre de fois que je l'ai fait pis ça a marché, là, ouais.
Bref.
Ouais, plus que, en fait, c'est que plus tu le fais, plus tu as besoin de
ouais,
le
non,
faire.
C'est ça, exactement.
Ouais, mais ça marche. Je m'en fous. C'est que même Nintendo, ils ont dit que ça marche. C'est pas tant, faut pas.
Fait que la cassette, elle devient addict à ton souffle.
Ouais,
je peux aimer ce concept.
Sur ça, question du 9 août, combien de fois peut-on souffler dans une cassette de Super Nintendo?
Mais la vraie question est...
C'est, ouais. Au-delà du jeu lui-même, qui implique une session idéale?
Réponse courte et efficace, de l'humour. Si entre la game, il n'y a pas au moins un moment où on a ri, je considère que la game est manquée.
Bon, question un peu... question. Réponse à peu près similaire, du fun.
Ouais.
Ça être amusé.
Faut que le monde... Ben, tu sais, on parle idéal, mais tu sais, posons une bonne session. Faut que le monde parte de la session, puis qu'il ait le sourire, puis qu'il ait le goût de rejouer, puis de revenir. Pis,
ben, moi, de la façon que je vois cette question-là, c'est moi, je veux mettre vraiment l'emphase sur le mot « idéal
ouais, ».
Parce que
c'est ça.
Tu peux avoir une bonne session, avoir bien du fun, mais là, on parle de session idéale. Vraiment comme la meilleure des sessions que tu auras jamais eues. Mm-hmm. Quand on parle d'une session idéale, moi, premièrement, ça me prend une session qui est longue. Moi, pour moi, 4 heures, c'est un barème minimum pour une bonne session, là.
Ah, tu vois, moi, si tu me donnes une session de 5 heures, je vais peut-être lâcher.
Ah non, non, moi, je te parle de session de 8 heures et plus, là.
Ouf!
Okay, ouais. Ça, pour moi, c'est une session idéale qui est
ça
le fun.
Ça fait longtemps j'ai pas joué ça.
Que t'as eu le temps de faire du roleplay agréable en gang, t'as eu un ou deux combats, peut-être même trois. T'as même eu une scène dans une auberge où c'est que, mettons qu'on va jouer chez le DM, il y a eu le temps de faire un repas pour pouvoir manger puis faire du roleplay en même temps dans l'auberge. Puis évidemment, il faut que ça se finisse. Ben, c'est sûr que si c'est une game de fiasco ou peu importe, t'as pas de loot ni d'XP, mais d'une game genre de Donjons et Dragons, ça prend du loot, de l'XP. Aussi, session idéale, pour moi, ça prend quelque chose de... Ça prend quelque chose de spécial. Ça prend du son, des images. Moi, je veux voir un DM qui s'est forcé puis qui m'impressionne avec ce qu'il a fait comme préparation. Session idéale, en gros. Je développerai pas plus, mais en gros, c'est ça.
Mais d'abord, pour changer... vas-y, Karine.
Ben, j'étais juste pour dire, maintenant, j'ai des angoisses de performance de DM et Marc.
Non, mais là, on parle de
on
session
parle
idéale.
Idéal.
Oui, ça, je sais, non. Mais... J'ai des angoisses de performance maintenant. C'est quand même pas mal passé.
Mais Karine, je veux dire, sois pas... parce que personnellement, je me suis rendu compte que les games les plus préparées, c'est celles que je m'emmerde le plus personnellement, parce que t'es toujours plus bloqué dans ce que tu peux faire. T'es plus railroadé, puis ça, j'aime pas ça, moi, personnellement. Faut que la game respire puis aille vers quelque chose pour que ce soit le fun. Au départ, j'étais comme Marc, quand j'ai commencé à jouer, et je me suis rendu compte que c'est pas là que je me fais le plus de fun. Oui, c'est le fun de voir ce que le maître de jeu emmène, mais en réalité, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui est le plus fun dans les games.
Mais quand je dis préparer, c'est pas nécessairement que je veux un gros scénario de la mort. Là.
Non, mais
c'est comme tu dis, comme si, mettons, on arrive, puis on a un chemin, on va à gauche, pas à droite, puis que le DM avait tout préparé pour à gauche, mais que nous autres, on choisit à droite. Tu sais, fait partie de ça, là, que le DM, ben, est capable de se tourner sur un dissent puis arriver avec
mais
quelque chose.
Marc, comme on dit dans le langage moderne, ce que tu veux, c'est du swag.
Yes! Non, mais session idéale, c'est quelque chose que je vais me souvenir encore dans 5-10
ouais,
ans.
Ça, tu veux qu'il y ait comme des stroboscopes puis des confettis à la fin
fucking
de la game.
Fucking right! Des effets spéciaux, des feux d'artifice et tout.
Ah ben, finalement, il aimerait les GN, lui.
Peut-être, oui. Peut-être.
Sinon, Philippe?
Oh boy. Ben, je l'ai un peu dit. C'est vraiment avoir du plaisir, retourner avoir du plaisir. Mais ce qui a fait une game idéale, ça va être une game où est-ce qu'il va avoir du souvenir. Mm-hmm. Si tu te souviens de ta game, c'est que c'était une game idéale.
C'est une belle réponse.
Parce qu'une bonne une que tu t'es fait beaucoup de plaisir, mais que tu t'en souviens pas, c'est elle va être juste une game le fun.
Non, c'est une excellente réponse, même. J'aurais tendance à changer ma réponse pour la tienne. Et
ouais,
du fun aussi.
Je te copie-colle.
Oui, c'est ça. On te copie-colle.
C'est ce qui s'appelle avoir l'expérience des jeux.
Ensuite, 10.
Yes.
La plus grosse surprise en jeu que vous n'ayez jamais eue. Il me semble que ça revient à un peu une
Ouais.
autre question.
Ben, en fait, non, parce que c'est une surprise, ça veut que c'est pas.
Ouais, c'est
Les
obligé d'être
autres,
un
c'est par
personnage.
personnage. Là, c'est.
Genre ta maison qui
Ça
pogne en feu pendant que tu joues.
Ish.
Mais ça m'est pas arrivé, là, mais c'est un
Ben,
exemple.
moi, la plus grosse surprise, c'est pas une surprise telle quelle dans ce sens, dans la game. C'est ma. Dans un GN, t'as un gars qui. Il a comme trois dieux, mais en fait, au départ de la game, il y a deux dieux qui sont connus, puis c'est. Bon, c'est à conflit de Solune. Fait que t'as un conflit entre les dieux. Puis en fait, les actions des joueurs, c'est comme le bet que les dieux ont. Puis là, il y a le on apprend qu'il y a un troisième dieu qui sert de juge. Puis pour commencer à juger, ben, on a besoin de joueurs. Fait qu'on est allé chercher des paladins des différents dieux avec le hockey de ces dieux-là, des transformés en paladins du juge. Puis il y a un des paladins du dieu de la lumière, il est habillé en blanc. C'est le gars qui, sur le GN, il y a de la boue partout, mais tout le temps impeccable blanc. Pourtant, il va se battre dans boue. Et dès qu'il finit son combat, il se lavait. Il y avait des brosses pour nettoyer son costume. Pourtant, tout le temps est impeccable. Fait on le prend parce que c'est vraiment, tu sais, le paladin vraiment méga typique. Puis là, t'as le prêtre, qui est en fait une espèce d'ange envoyé par les dieux, commence à faire son truc. Et au moment que le gars fait oui, j'accepte le switch, etc., il se met à pleuvoir. Mais vraiment à la seconde près. Fait quand on a fait ça, on est parti à rire en disant, tu sais, c'est comme c'est ta déesse qui s'est mise à pleurer. Puis ça, mais tu sais, c'est vraiment à la seconde près, là. Fait que ça aussi, ça a resté. Puis c'était comme. Puis après ça, c'est parce que moi j'ai parlé au gars, au NPC qui jouait l'espèce d'ange. Le gars, il voyait la pluie s'en venir. Puis il a étiré son speech pour y poser la question vraiment au moment qu'il voyait la pluie arriver. C'était pas fait pour. Ben, il a fait exprès parce qu'il a vu la pluie qui s'en venait, puis il a eu l'idée. Puis il a étiré son speech, il a parlé plus longtemps pour y faire dire juste au moment, et c'était génial. Fait que ça, c'est probablement la meilleure surprise que j'ai vue.
Next.
Bon, je vais y aller. Moi, la plus grosse surprise que j'ai eue, c'est qu'auparavant, j'avais côtoyé surtout des joueurs qui, je te dirais pas qu'ils faisaient pas de roleplay, mais ils s'immersaient pas tant que ça. Puis dans ma game de Dungeon World, il y a Paul Artwork, JR. Ludiste qui joue un barde. Et ce que je savais pas quand j'ai commencé à jouer ça, c'est que Paul joue plusieurs instruments. Puis moi, ça a été ma surprise de voir quelqu'un qui joue un barde au point qu'il fait vraiment des chansons, il en compose avec sa guitare, sa flûte de pan, puis tout un kit. Moi, j'étais impressionné par ça. J'étais surpris, puis agréablement.
Moi, ça va être une surprise en jeu et non hors jeu, comme les deux. Ben, Philippe, c'est un mix des deux, à vrai dire.
Ouais, c'est ça.
Moi, c'est une aventure, un one-shot de Cthulhu. Fait que pour ceux qui un jour vont vouloir faire ce one-shot, vous pouvez plus le faire, désolé. Parce que je vais vous scraper le
Spoiler
punch.
Ouais,
Spoiler alert. Je
avancez deux
pense,
minutes.
si je me souviens bien, le scénario, je pense, s'appelle Burning Stars. Bref. On était en Haïti, je pense. Puis on se réveille dans un hôpital d'Haïti. Ça fait une semaine qu'on est dans l'hôpital. Ils nous guérissent parce qu'il y a eu un accident. Puis, à ce qui paraît, on venait enquêter sur. On était là pour différentes raisons. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu un certain nombre de 4 personnes, je pense, retrouvées mortes dans les montagnes en Haïti. Moi, je cherchais mon fils, par exemple. Il y avait un inspecteur qui inspectait sur ces morts-là, etc. Mais le problème, c'est qu'on a tout oublié de la dernière semaine qu'on a été en Haïti. Fait que là, on commence à chercher qu'est-ce qui s'est passé, à essayer d'en découvrir plus. Puis tout le monde réagit un peu étrangement avec nous. Sauf avec l'inspecteur. Les gens, l'inspecteur, ils ont l'air déjà le plus de le comprendre. Mais moi, quand je parlais au NPC, ben il réagissait tout le temps bizarrement, puis les autres joueurs aussi, etc. Bref, à la fin de la partie, c'est le spoiler, on découvre que, dans le fond, voilà une semaine, nous, on enquêtait justement sur chacun de nos choses respectives. On a trouvé un culte qui essayait de ramener un grand ancien. Ils nous ont tous tués, sauf l'inspecteur. L'inspecteur a été tellement traumatisé qu'il a développé un trouble de personnalité multiple. Ça fait qu'il y avait juste l'inspecteur qui était vivant. Puis quand les autres joueurs ont parlé, ben c'est juste l'inspecteur qui changeait de personnalité.
C'est vraiment cool.
Puis tout au long de l'aventure, le DM parlait de façon à ce qu'on s'en rende pas compte. Fait qu'on l'a jamais réalisé sauf à la toute fin de l'aventure. On a fait « Ok, on n'existe même pas. On est mort.
»
Il y a juste ce joueur-là, c'est toutes ses personnalités. Puis à la fin, ben le joueur... On était devant le culte, justement, qui allait réussir à amener le grand ancien. Le joueur, malheureusement... Pas le joueur, là, le personnage, malheureusement, mis fin à sa vie.
Ouais, non, ça aurait été un peu intense.
Ouais, non, ça aurait été une grosse surprise que j'aimerais mieux pas me rappeler. Mais ça n'a pas été le cas, une chance. Bref, un scénario magnifique que vous pouvez plus faire maintenant. Fait que fin du spoiler.
Pour moi, c'était une surprise négative, en fait, qui est arrivée.
Bon.
Dans une game, mais c'est le moment où on a été le plus WTF à vie. Même le DM était WTF, je sais pas quoi faire avec ça. On a... c'était dans ma game d'Exalted. On était dans une ville, on s'occupait de la ville, puis là, il y avait un problème. On a littéralement passé une session complète d'à peu près entre 4 à 6 heures, là, je me rappelle pas trop, à monter un plan. Toute la game, là, on a discuté entre nous pour faire un plan. Puis tous les joueurs étaient impliqués dans la discussion, puis c'est ça. Puis il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient pas contre, on avait des agendas différents, mais bref, on a passé comme 6 heures, ou je me rappelle même plus combien. C'était excessivement long à négocier, ce maudit plan-là. Puis la game a fini là-dessus. On arrive à la game d'après, une semaine plus tard. Puis là, on se rassoit, puis on dit, on était où? Fait qu'on dit, ben, on avait convaincu qu'on ferait le plan X à ce moment-là. Puis là, tout le monde fait, ouais, c'est ça qu'on avait convaincu. Puis là, il y a un des joueurs qui se tourne vers le DM qui dit, ben, moi, je vais voir la... Parce que dans le fond, on allait comme jouer la comédie à quelqu'un, puis comme finalement mettre à terre une espèce de gang de mercenaires slash brigands. Là. Mm-hmm. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait, OK, moi, je m'en vais voir le groupe de brigands, puis je leur dis notre plan. Puis on a comme juste fait... Tout le monde a figé, puis tout le monde a comme juste... pas compris ce qui venait de se passer. Même le DM, on a pris une pause. Je pense on a dit, c'est un excellent moment pour commander de la pizza. Parce qu'on était tous juste... on sait plus quoi faire. Parce qu'on n'est pas un groupe qui a des traits, techniquement. On est un groupe cohésif. Puis soudainement, il y a quelqu'un qui a fait ça. Puis on a juste tout figé. Le DM aussi. Puis on se regardait. Puis on savait tout pas quoi faire. Et on a resté peut-être un bon 15-20 minutes à gérer notre envie de lui faire mal. In-game et peut-être un peu hors-game. Moi, ma frustration, c'était « Mais t'aurais pu nous le dire que t'étais pas d'accord? Ça fait 6 heures qu'on en parle! »
Non, colique. C'est ça. Puis surtout, c'est comme il vient de scraper presque 6 heures de jeu dans un certain sens. Là.
Oui, mais mentionne-le que t'es pas d'accord. Fait qu'on a juste comme figé là, puis fait un what the fuck. Finalement, on a roulé avec le flow, puis tout le monde s'est ressaisi, puis on a continué l'aventure avec ça. Mais ça a été un moment où on a tout bloqué pendant plusieurs bonnes minutes à tout se regarder, puis à faire comme « mais qu'est-ce qu'on fait? »
Parenthèse rapide, ça me fait penser à un terme que j'ai appris récemment, le « gamer Nuremberg Defense ». Qui est quelqu'un qui justifie son attitude de merde à la table ou genre il scrape le jeu en justifiant en disant ah, mais c'est parce que je joue mon personnage, c'est mon personnage qui est comme ça.
Je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je vais noter ça.
Tu sais, le Nuremberg Defense, ça existe, c'est un. Je pense que ça doit être en psychologie, mais là, c'est le gamer Nuremberg Defense, la personne qui justifie ses agissements de merde par son personnage.
C'est ça. Fait qu'il a fait un peu ça, puis c'était...
Le gars, il vous a-tu justifié pourquoi il a fait ça en game ou...
Oui.
OK, mais pourquoi? Parce qu'il était pas d'accord?
Mais il était pas d'accord, puis il pensait pas que c'était ça le best course of action dans ce moment-là. Fait que son personnage était pas d'accord avec ça. Fait que son personnage a décidé de faire ça. Il a fait un Gamer's Nuremberg Defense, là. Terme que je viens d'apprendre, que je vais clairement utiliser.
Non, c'est ça. Depuis que je l'ai appris, j'aime beaucoup trop ça. Ça met un nom sur beaucoup, sur des comportements que j'ai eu souvent vu.
Fait qu'il a fait ça, puis c'est comme ça qu'il nous a justifié ça. On a eu beaucoup de difficultés à nous rationaliser le fait qu'il restait dans notre groupe après ça. Mais on a réussi, donc.
Ouais, il y a ça aussi. C'est... Parce que quand t'agis de même, à un moment donné, c'est comme, oui, c'est vrai qu'il... Une game, ben, les joueurs vont essayer de rationaliser ça. Mais hors game, c'est plus hors game, mais in game, on devrait juste le mettre hors du groupe, là, tu sais, puis la
ben, tête, là. Ça l'a fini par faire ça. Faut dire aussi qu'il a, par un similaire, la suite de cette histoire-là, c'est qu'il a failli tuer mon personnage en faisant ça. Fait que son perso a failli tuer mon personnage parce qu'il a fait « Non, moi, c'est ça que mon personnage ferait. » Puis il a fait de quoi comme ça à deux reprises avec deux personnages différents. Donc, il a fini par, oui, plus faire partie de la game. Mais ça a quand même duré plusieurs années avant que... On a réussi à rouler quand même un bout avec ça.
Ouais, mais ça, c'est juste des fois, en tant que joueur, on justifie pourquoi telle personne est dans le groupe, là.
Ouais. Puis,
Justement, ça fait un bon segue en plus pour la prochaine question. Quel joueur affecte le plus votre façon de jouer?
Aucun joueur.
Aucun?
Aucun.
Ça doit être plate, ça, Philippe? Tu te laisses pas influencer par aucun autre joueur?
Non, je me laisse pas influencer par un joueur. Je vais me laisser influencer par leur personnage, selon mon personnage. Mais ça sera pas parce que tel joueur joue de même.
Mais tu sais, moi, un exemple, par exemple.
C'est consistant, Étienne.
En tant que joueur, quand je joue avec quelqu'un qui est tendance un peu plus gêné, qui prend moins de place, moi j'ai tendance à en prendre beaucoup, puis à parler beaucoup. Spoiler alert, non, ça paraît déjà.
On n'avait pas noté.
Non, c'est ça, on n'avait pas remarqué. Puis c'est ça, quand j'ai un joueur qui parle moins ou qui a moins tendance à prendre le spotlight, ben justement, il y a des fois que je vais me retirer un peu de la partie. Je vais me mettre un peu plus à l'arrière pour que ce joueur-là ait son moment aussi, tu sais, pour qu'il puisse prendre l'avant. Quand je sais que c'est une situation, par exemple, que son personnage aurait beaucoup plus tendance à avoir un impact que le mien, ben, je vais me reculer puis je vais le laisser parler ou je vais lui poser des questions pour favoriser son engagement dans la partie. Non, même en tant que joueur, c'est des réflexes de DM aussi, mais...
Ben, c'est sûr que si t'as des joueurs où j'ai un personnage qui est mi-lead, mi-suiveur, puis que là, il n'y a aucun joueur lead, c'est sûr que je vais avoir tendance à prendre le lead. Mais si mon personnage n'est pas leader partout, puis qu'il n'est pas supposé de l'être, puis qu'il n'y a personne qui prend le lead, ben, mon personnage n'ira pas le prendre, tu sais. Mais en tant que moi, si j'ai un personnage qui est un peu mitigé entre les deux, ben là, c'est sûr que j'aurais pas le choix, mais je vais le faire assez naturellement de prendre le lead. Puis en fait, ça m'est arrivé assez souvent qu'il y a des joueurs qui comprenaient pas comment je pouvais passer d'un à l'autre ou au moment donné, j'ai un personnage dans une game de Werewolf où que mon lead était fort, je deviens l'alpha du pack. Puis tout d'un coup, j'ai plus de lead. Puis là, il y a un joueur qui était comme, mais ouais, mais c'était super bon. Puis là, après ça, j'ai fait remarquer, ouais, mais toutes les games avant, on était dans le bois, puis j'étais un Red Talon. Puis là, toutes nos missions, ils nous les donnent dans crise de ville. Bon, ce personnage connaît pas la ville, sait pas quoi faire, puis ça lui fait bad-tripper la ville. Il est plus capable de leader, tu sais. Puis ça, le gars, il l'avait pas compris. Puis ça... Le joueur il était affecté par la façon que je jouais, puis mais moi ça m'affectera pas. C'est pas les joueurs.
Mm-hmm.
S'il y a quelqu'un qui prend trop de place, la seule chose c'est si quelqu'un vraiment prend trop de place, ça peut m'arriver d'essayer de remettre un peu d'en face en jouant là, mais sinon. Ouais.
Sinon, Marc et Karine?
Moi, j'ai un ami en particulier que je dirais que c'est le joueur qui a eu le plus d'impact sur moi puis que j'essaye de modeler le plus. Je peux vous donner son nom, mais je veux dire, ça, vous le connaissez pas. Exactement. C'est le pourquoi je considère qu'il est impressionnant, c'est qu'il incarne toujours ses personnages avec une immense fidélité puis une complexité qui les rend intéressants. Puis il y a toujours des idées surprenantes. Il n'y a pas une game, ça peut arriver une game, on skip une game ou deux, là, mais je dirais max aux trois games, là, il va prendre une décision ou il va faire un move que je vais faire. Hostie que c'est cool. À chaque fois. Puis aussi, interagir avec lui, le voir interagir puis interagir avec ses personnages, ça a le fait que je pense que je me suis améliorée en tant que joueuse, notamment. Lui, ce qu'il aime bien faire, c'est pour ceux qui connaissent le système Ars Magica, il y a une famille qui s'appelle les Titalus, puis eux, c'est tu fais grandir tes amis et tes ennemis par l'adversité. Puis il est un peu comme ça, ce gars-là, dans la vie. Moi, je suis susceptible. C'est pas nécessairement un combo que d'emblée, ça semble que ça va bien fonctionner. Mais j'ai joué plusieurs games avec lui où son personnage était dédié à me faire chier. Mais c'est... Puis, j'ai appris à rouler avec ça, puis à pas juste me fâcher, puis comme être frustrée, puis arrêter la game, ou devoir m'en remettre pendant une semaine, puis comme planifier ma vengeance, tout ça, mais comme à rouler avec ça, puis avoir du fun à faire ça. Fait que j'ai maintenant du fun quand parfois des personnages me font chier, grâce à ce joueur-là. Fait que moi, je leur remercie beaucoup. Puis c'est toutes les games, toutes les lives, toutes les choses que j'ai jouées, même les jeux de table que j'ai, les board games là, que j'ai joués avec lui, là, c'est le fun. C'est tout le temps le fun de jouer avec lui. Fait que c'est vraiment, je dirais, le joueur qu'il m'affecte le plus.
Marc?
Moi, de mon côté, le joueur qui m'a affecté le plus, c'était, faut que je retourne à ma première campagne de Donjon 3.5, qui avait un des joueurs qui jouait un nain guerrier. Et c'est pas mal tout ce qu'il savait jouer, mais il faisait de façon vraiment experte. Puis après les sessions, après chaque session, c'était toujours ce que lui avait fait, ce que lui avait dit qu'on se souvenait. Puis il m'a beaucoup influencé parce que moi aussi, j'avais le goût qu'on se souvienne de ce que je faisais ou ce que je disais par après. Puis à ce niveau-là, ouais, c'est lui qui a le plus affecté ma façon de jouer. Sinon, de façon plus générale, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je suis pas le meilleur en improvisation, c'est les joueurs qui sont bons là-dedans, qui sont plus axés sur la narration, qui vont m'aider. Fait que, entre autres, vous trois, grâce à la game de... Ben, Karine n'était pas là à la game de Fiasco, mais...
Ben oui, j'étais là.
Ben, pas notre première ratée.
Ah!
Ouais, c'est vrai.
Ben, elle était pas ratée, elle était juste pas très existante.
Ouais, ouais, on va
la
dire
la première
ça.
Game de Fiasco qui était elle-même vraiment un fiasco.
Et ouais, non, c'est ça. Vous l'avez personne l'a entendu, puis vous l'entendrez peut-être jamais, on verra.
Vous n'aviez pas de blob.
Mais attends, on l'a-tu encore?
Non, c'est sûr que je l'ai quelque part.
Mais il y avait la game des gnomes aussi, que Karine n'était pas là.
Oui, c'est vrai. Tu vois qu'elle était magnifique, cette game-là.
Oui. Ouais. Mais vous m'avez influencé beaucoup à ce niveau-là, parce que ça... En fait, moi, je vais peut-être aller au contraire de Philippe, qui, lui, c'est personne. Moi, c'est pas mal tout le monde qui joue bien à sa façon. J'aime ça comme... Hey, ben moi aussi, je veux être un peu comme ça. Puis je vais essayer d'introduire ce genre de gameplay-là dans mon jeu à moi. C'est ça, en gros.
Donc... Moi, je dirais que c'est peut-être parce que je m'en souviens plus. Parce que c'est sûr qu'au départ, il y a du monde qui m'ont...
Qui t'ont influencé, ouais.
Bon, sauf que pas... ça fait 25 ans, 30 ans.
On va passer à la prochaine question. On va essayer d'être un petit peu plus rapide, parce que sinon, ça, on va passer la journée là-dessus.
On va en faire trois.
La prochaine, c'est quel jeu est-ce que votre groupe a plus de chances de faire en prochain et pourquoi? Puis moi, je me dirais qu'on devrait la tweaker. Quel game est-ce que vous pensez que les aventureux vont faire en prochain et pourquoi?
Oh!
Fait longtemps qu'on est supposé faire Made RPG.
Faut faire Made RPG, je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a aussi Faut faire, puis je sais comment la faire, on va juste en enregistrer, il n'y aurait peut-être pas de problème. Faire une game de Trick of Magic, là.
Fall of Magic.
Fall of Magic. Je pense que ça se ferait même juste vocalement, parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de faire la map si tu la fais comme du monde.
Ouais,
Faut
mais
quitter un peu
c'est
la game.
tellement un bel attrait de jeu.
Oui, c'est un bel attrait, mais je pense que on a juste à les pointer vers les images ou des choses comme ça pour voir l'objet et non pas.
Moi, ma prévision, c'est qu'on va faire Yutama la prochaine.
Ah, c'est vrai.
Ryutama.
Ouais, ça aussi,
Ouais,
c'est
parce
un autre nom.
que j'ai le jeu, je peux le DMer. Étienne est motivé en tabarouette à le faire. Moi, je pense que mon guess, ma prédiction pour 2016 est Ryutama.
Moi, j'ai rarement de problème à jouer une femme, fait que oui, je suis prêt.
Non,
Alors,
c'est pas le
Ryutama,
même
c'est pas
jeu.
la femme, ça, c'est Kagematsu que vous jouez.
Ah! Je me suis trompé, Kyle.
C'est pas grave, c'est deux noms japonais que je prononce
Ouais,
probablement mal, en
mais
fait. Mais.
peut-être une prédiction rapide à faire. On va peut-être faire un jeu de Bollywood.
Ah oui, c'est
Ah
vrai.
ouais! C'est vrai.
On n'en dira pas plus, mais il faut qu'on le fasse bientôt, hein?
On pourrait continuer à en dire longtemps parce que à chaque fois qu'on se parle, on sort tout un nouveau jeu qu'on veut jouer.
Effectivement.
Ah,
Mais je
faudrait
pense que ça.
commencer un podcast parallèle, Les Aventureux One Shot, là.
En fait, on pourrait, là, mais ça nous prendrait plus de temps. Bon,
Plus de gens aussi.
Next question.
Next question. Qu'est-ce qui fait une bonne campagne?
La
Moi,
cohésion groupe.
ouais, cohésion de groupe. Des ennemis protagonistes. Bref, des personnages récurrents et dynamiques et intéressants.
Ouais.
Et des lieux intéressants aussi.
Ouais, mais tu sais, les lieux intéressants, ça peut aussi dépendre de ta propre
Puis
imagination.
aussi, savoir, en tant que maître de jeu, savoir s'adapter et finir sa campagne au bon moment. Même si ta campagne t'a prévu qu'elle dure tant de sessions puis que la fin elle a à être là, ça se peut qu'elle finisse avant si c'est propice. Faut rester à l'écoute de son histoire.
D'autres
D'autres?
idées sur qu'est-ce qui fait une campagne
Ben, tu as pas mal touché à tout ce que je voulais dire en disant le mot cohésion du groupe, là. Les joueurs qui s'entendent bien, d'un. Les joueurs qui participent, qui sont là. DM qui est fort en improvisation, qui est plus ou moins préparé, assez en tout cas pour pouvoir garder l'attention de ses joueurs. Une histoire intrigante, intéressante, des personnages qui sont pas vanilla, qui ont un background intéressant, une personnalité qui est attachante. C'est pas mal ça, dans le fond, là.
Moi, pour vrai, en tant que joueur, donne-moi un monde dans lequel j'ai le goût d'évoluer avec un groupe que j'ai le goût d'évoluer aussi, puis ça va être bien en masse.
Ouais.
Qui est un peu lié à la prochaine question.
Oui.
Ouais. Mais la prochaine question, moi, j'ai presque le coup qu'on la skip, mais on va la lire
Ouais.
pareil. Votre groupe de rêve comparé des gens de votre passé. Même si je dirais, genre, comme disait Karine avant le podcast, si je disais Dominique, Paul, Roger et Bernadette, ça vous dirait rien. Moi, ça me dit
Non.
rien non plus parce que c'est des exemples bâtards, mais.
Ben, en fait, moi, je peux le dire rapidement. J'ai joué avec plusieurs groupes. Mes deux groupes que j'ai joué le plus longtemps, c'est parce que c'était des bons groupes, j'ai joué longtemps. Dans le passé, je parlerais du premier groupe parce que c'est eux autres qui m'ont fait, dans un certain point, avoir le goût d'essayer le plus de jeux quand on avait décidé qu'on avait détruit notre monde de Dungeon and Dragon, deuxième édition. Pour nous autres, on était obligés d'arrêter de jouer parce que l'univers était détruit. Fait qu'on avait décidé qu'on jouait à plus de jeux possible. Puis on partait, puis chacun on allait acheter deux jeux à la fois. Puis après ça, on les essayait un après l'autre. Puis après ça, on jouait au jeu qu'on avait trouvé le plus fun. Mais puis après un certain nombre de games, on faisait ça, on allait racheter deux jeux, on les apprenait, puis on les faisait jouer aux autres. Fait qu'on a vraiment fait beaucoup de jeux de cette façon, ce qui était vraiment, vraiment super intéressant.
Toi, Marc, qu'est-ce que t'as...
Ben, moi, je pense que sans vouloir offusquer personne, je vais quand même choisir mon premier groupe parce que c'est avec celui-là que j'ai eu des délires les plus intenses. Puis, je suis pas mal content parce que mon premier DM de ce groupe-là m'a contacté il y a pas longtemps pour rejouer à sa table. Puis, ça va être ma première game en vrai, pas sur Internet, mais vraiment chez quelqu'un. Depuis plusieurs années, fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Je vais jouer un druide demi-orc dans Donjon 3.5, ce que je pense que ça va être une petite commande, mais je suis prêt à le faire. C'est ça.
Donc, moi, si j'en avais rapidement, je viens de penser à ça. Si j'avais à nommer un groupe, c'était mon premier groupe aussi, c'est-à-dire mon grand frère, mon père et ma mère.
Oh, c'est bien beau!
J'aimerais vraiment ça un jour rejouer à un jeu de rôle en famille 20 ans après, 20, presque 25 ans après. Ça serait
bien. Ah, 20 ans après, j'ai déjà fait ça. Jouer un jeu 20 ans plus tard. C'est inspirant.
Sinon, on est rendu à 15. Quelle est votre meilleure source d'inspiration?
Parlant d'inspiration, hein. meilleure source d'inspiration... OK, je suis sûr que vous allez parler de livres, de films, des choses comme ça. Moi, je veux dire qu'un seul mot, la vie.
Ah, oh, c'est beau.
Je m'excuse, là, mais la freaking life, là, il y a des affaires tellement improbables que j'ai jamais vu dans des livres qui apparaissent. C'est comme, ouais, juste à voir, à écouter, regarder les nouvelles, regarder, de voir alentour de moi, écouter des affaires, puis là, c'est comme, ouais, tu peux pas ne pas avoir d'inspiration avec ça. Oui, les livres, oui, les films, mais c'est l'inspiration que tout le monde va avoir, tandis que l'inspiration du moment, c'est souvent ce qui pour moi, fait popper le plus de trucs. Dans une journée, mon cerveau arrête pas à cause qu'il se passe une niaiserie au bureau, il se passe... il pleut de façon bizarre, puis la pluie a l'air de remonter dans les airs, ben là, tout d'un coup, je viens d'avoir une histoire qui m'apparaît dans la tête. Moi, tout m'inspire, fait que c'est ça.
C'est pas mal la même réponse de mon bord, là, c'est... tout, incluant les médias aussi, là, mais tout ce que quelqu'un... toute l'expérience que t'accumules peut te servir d'inspiration, là. Pour ce qui est, si on se concentre un peu plus dans les médias en général, supposons, évidemment, ce que je regarde le plus, c'est des téléséries, puis je joue à des jeux vidéo, fait que ça reste pas mal les choses qui m'inspirent. Puis la plupart du temps aussi, je vais m'arranger pour, par exemple, que je fais un jeu de rôle fantastique, ben mon inspiration peut venir d'un jeu ou d'une série futuriste. J'essaie vraiment d'aller chercher ailleurs que j'irai voir normalement. Mais bref, ça peut venir, comme tu dis, de n'importe où.
Oui, ben, je suis d'accord avec le n'importe où. Moi, je le préciserais peut-être en disant les gens. Parce que même si, oui, tout le monde regarde des films, regarde les bandes dessinées, regarde les jeux, ce que tu as quand tu parles avec les gens, c'est leur interprétation de ce média-là. Puis pas la tienne. Fait que ça te permet toujours de découvrir des façons différentes. Puis les gens, c'est complexe, puis ça devient jamais ennuyant. Fait que moi, je dirais les gens. Puis au niveau des médias, je dirais les animés. T'as de tout là-dedans. Petite histoire banale de fille qui va à l'école puis il se passe vraiment absolument rien à... finalement, la fille, c'est un démon envoyé par Cthulhu, là. Ça prend tout bord, tout côté. Moi, je dirais les animes, le nombre d'inspirations que j'ai eu de ça, c'est...
Ouais, moi aussi.
Vraiment important.
C'est souvent un commentaire que j'ai de mes joueurs. Des fois, quand on finit une campagne, tu fais... Ton campagne, c'était vraiment un animé. <C'est>...
Ouais. Ben, moi, mon côté, je vais rejoindre ce que vous avez dit dans le fond, parce que même si je m'inspire beaucoup de la culture geek en général, plus particulièrement des jeux vidéo, puis du cinéma, ça va quand même, ma plus grande inspiration, ça va quand même rester mon propre vécu. Quand les maîtres de jeu me posent des questions sur ce que je fais dans telle ou telle situation, la première chose que je vais penser, c'est à comment est-ce que moi, personnellement, je réagirais par rapport à ça. Puis c'est sûr que j'adapte ça à la personnalité puis aux valeurs de mon personnage, mais ouais, ça va être surtout mon vécu qui va m'inspirer beaucoup.